potes, venez chez moi, y'a papa. Aidez les potes, y'a papa, y'a papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Aidez les filles, bijou chouchou, Lady Diana, poupou zizi, mimi papa, y'a papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Le frigo, y a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse ton ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dites des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas qu'elle est Vétus. Tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bonsoir. Tu es là, ami auditeur, ami auditrice, es-tu là? Ici, c'est bien la causerie et il est bien au 22h04. Et vous êtes bien sur Radio Canu avec Fab à la technique.
Bonsoir.
Et Clara à la technique.
Bonsoir.
Yeah. Et on a des invités ce soir.
Oui.
Coucou.
Salut.
Et ben c'est Max et Nico de l'émission Le Petit Bazar qui passe le dimanche de 13h à 14h.
Pourtant,
c'est...
t'étais là tout
mais
à
grave.
L'heure.
C'est ce que je suis en train de me dire. J'y étais et...
La lueur d'effort dans son regard. Ouais, genre,
on sent qu'il est plus réveillé maintenant quand même. Hein.
Ouais, quand même. C'est un peu plus mon heure, le 22h. Et puis, ben, on peut peut-être vous rappeler ça, amis auditeurs et auditrices, c'est que ce matin, eh ben... La causerie en divisée en deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait que Fab et moi. C'est pas divisé, mais en tout cas, Clara n'était pas présente et Emma n'était pas présente, comme elle n'est pas là ce soir non plus.
Et où on... es-tu, petite licorne? Tu n'es pas revenue alors.
Petite licorne.
Pardon.
Je voulais déclencher un fou rire, ça marche.
Non. Attends.
Ça marchera forcément.
J'étais trop bien.
On a une heure pour le faire rire en boucle.
J'étais trop bien. Attends, je les présentais. Je disais qu'on y était ce matin, enfin à 13h, 14h. Que vous pouvez entendre ça sur le blog du Petit Bazar ou sur le blog de la causerie. Le blog de la causerie qui est
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Mais c'est super. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rappelez le mail vite fait.
Vite fait. Alors c'est lacauseriecanu@gmail.com pour chez nous. Et pour le petit bazar, c'est quoi votre mail?
Bah du coup pour le blog, donc c'est pareil, c'est blogs.radiocanu.org/lepetitbazar. Et le mail c'est lepetitbazar@hotmail.fr.
Et voilà.
Mais c'est magnifique.
C'est bien qu'on a vraiment un mail en fait.
Mais oui. Donc, en fait, il y en a qu'un des deux qui est au courant.
En fait, oui, il est genre à fond sur le mail et moi, genre, ça me.
Ah bah voilà.
Bah disons qu'on n'en reçoit pas beaucoup, donc pour l'instant. Donc c'est un appel, il faut écrire.
Voilà, envoyez-nous des mails, soyez sympas. Oui, aidez-les.
Ça me fait penser que ce matin, quand le téléphone a sonné, j'ai oublié de dire à Guillaume qu'il avait un appel.
Bon, et bah, tant
pis. C'est un peu tard, je pense.
Je crois que c'est un peu tard.
Donc Guillaume, si tu nous écoutes, tu avais un appel ce matin.
C'est ça. Alors là, amis auditeurs, auditrices, soit on vous a perdu, soit vous arrivez à nous suivre, et ce qui est vraiment, vraiment pas mal du tout.
Mais moi, je pense qu'on a des auditeurs 4-4, c'est-à-dire qu'ils sont capables, auditeurs et auditrices d'ailleurs, capables de tout entendre, de tout vivre, voilà, comme bah, oui. Des expériences totalement farfelues, et que du coup, ils n'ont pas peur, ils se disent, mais tiens, voilà le petit bazar dans la causerie. Tiens, on n'est pas étonné. Le petit bazar dans la causerie, c'est normal.
Oh. D'ailleurs, en parlant de faire plein de choses, moi, ça me rappelle que Fabien, quand on préparait l'émission, il était en train de parler d'une chose et à côté, son cerveau réfléchissait à une centaine de choses pour organiser l'émission.
Et ça s'appelle la schizophrénie.
Ils sont plusieurs, ne les énerve pas, s'il te plaît. Et vas-y.
Oui, non, moi j'allais juste quand même préciser que en fait on fait des émissions un petit peu comme d'habitude, mais pas vraiment. Et voilà, et que ben on va un petit peu essayer de vous parler du petit bazar, parce qu'on va les faire un peu parler sur leur émission que vous ne connaissez sûrement pas, parce que comme nous vous dormez à sortie d'habitude. Et en plus, j'en profite juste comme ça pour faire une annonce avant les brèves, c'est de dire que le 30 octobre au Cafeton. Alors le Cafeton, pour ceux qui connaissent, c'est ceux là aussi qui a la CNT pour voilà sur les pentes de la Croix, c'est rue Burdeau 44 si ma mémoire est bonne. Et donc eh bien au Cafeton le 30, vous allez pouvoir rencontrer des animateurs et des animatrices de Radio Canu. Ça vaut le coup, vous pouvez bien nous toucher, c'est chouette.
Toucher mais aussi aider Radio Canu par exemple.
Oui, voilà. Mais l'idée c'est vraiment bah comme vous savez, en ce moment on fait un appel aux dons et tout, et puis qu'on s'est dit c'est bien si on rencontrait un petit peu les gens qui nous écoutent, les gens qui apprécient la radio, puis bah faut venir nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, puis croiser un petit peu les gens que vous entendez. C'est bien de voir, de mettre un visage sur une voix aussi, c'est assez cool. Et voilà, puis ce sera bien sûr ambiance Canu, donc pas de prise de tête, de la bonne musique, à manger et à boire, et voilà. Enfin, à manger si vous amenez, et à boire surtout.
Voilà, quoi. Et alors moi, je voulais remettre juste l'émission dans le contexte aussi, parce que ce matin, donc, quand Nico et Max nous ont reçus, en fait, on était sur une thématique, parce que souvent, dans le petit bazar, vous avez une thématique à l'émission. Et donc, ce matin, c'était autour de l'expression, et donc, ce soir, ce sera autour du...
mutisme.
Voilà, et là, on s'arrête. voilà, c'était super. On vous remercie. Alors, on va peut-être y aller un peu plus sérieusement. Bah vas-y, je te laisse y aller parce que moi je me sens pas sérieux.
Eh ben moi j'ai juste une question, mais on va pas faire toute l'émission sur le petit bazar. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de venir faire de la radio sur Radio Canu et de lancer un truc qui s'appelle le petit bazar où on met de la bonne musique dedans?
C'est à Nico de répondre, je pense.
Ok, bon, bah, Nico.
C'est pas à nous deux. Hein.
Non, mais c'est toi qui avais fait des marches. Hein.
Mais ça, c'est les vieux couples, tu vois. Ça, personne ne sait comment tu dois répondre. Mais
il nous manque Julien aussi.
Mais oui, Julien, le troisième élément. D'ailleurs, je pense qu'il va nous écouter, pas forcément en direct, mais il nous écoutera et il appréciera, j'espère.
Alors, alors Max, quand même, tu fais de la radio depuis longtemps, parle dans ton micro.
Mais je parle dans mon micro. Là, regarde, il est juste devant moi. En fait, on vient de la même école, le NS Lyon. Et on avait un fanzine qui s'appelait Extasound et qui avait un tirage limité, un mode de création, diffusion un petit peu anarchique, je pense que ça colle bien de dire
chaotique
ça.
Chaotique même.
Ouais. Ah non, alors non.
Jusque anarchique, il était chaotique.
Et du coup, voilà, au bout d'un moment, Nico s'est dit, vu que les gens allaient, venaient et surtout... allait. On s'est retrouvés plus très nombreux à faire ça et du coup on voulait continuer et il a fait les démarches pour Radio Canu et je te laisse expliquer la suite.
Bah, disons que ouais, c'était dans l'idée, le magazine qu'on faisait, on était 5 ou 6 il me semble, si je n'oublie personne.
7 même.
7, voilà. Selon les numéros en plus, tout le monde participait pas toujours, mais en gros c'était vraiment de parler de musique dont on n'entend pas nécessairement parler en dehors. Et c'est vrai que l'élément qui manque dans un magazine, c'est la musique quand on parle de musique. Donc depuis le début avec Max, on s'était en fait rencontré avec Maxime et Julien, donc les trois personnes avec qui on a fait l'émission, dans l'une des premières, dans les premiers jours où on est arrivé à l'ENS. Je crois que vous êtes tous en train de regarder derrière.
Non, tout va bien.
Je suis deux, je sais pas ce qui se passe.
Tout va bien.
Très
bien.
T'inquiète pas, c'est juste mon mec qui vient d'arriver.
D'accord. Et Et du coup, on voulait tous faire une émission de radio dans la radio de l'ENS, mais on s'est aperçu à l'époque qu'ils n'avaient pas les droits de la SACEM et que c'était compliqué de diffuser de la musique là-bas. Donc, on avait tous un peu laissé tomber la chose. Ensuite, on s'est retrouvés pour faire ce magazine musical. Et du coup, quand j'ai commencé à faire des démarches pour voir, pour faire une émission de radio ou participer en tout cas à de la diffusion musicale, je les ai tous recontactés en leur proposant du coup de faire une émission tous ensemble, parce que je me voyais pas faire la chose tout seul et que surtout c'est quand même beaucoup plus sympa d'être un groupe et que chacun, chacun a des préférences, des influences différentes et peut apporter du coup quelque chose en plus. Donc l'idée c'était vraiment de faire quelque chose à plusieurs et il y a Julien et Maxime. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié le petit problème. Oh mais on continue sur le même ton qu'à midi, je suis désolé.
C'est ça.
Et du coup j'avais envoyé un appel un peu à toutes les personnes qui faisaient le magazine ensemble, donc les 7 personnes, et il y a Julien et Maxime qui ont répondu à cet appel, alors que moi je commençais un peu à me désespérer vu que personne réagissait, mais bon bah je vais laisser tomber la chose tout seul, je me vois pas monter une émission, et c'est comme ça un peu qu'on s'est motivés tous les trois, qu'on a monté une maquette, et puis qu'on a...
La maquette, c'était un très très grand moment de...
C'était assez rigolo.
Proto-radio, on va dire.
Non, c'était marrant. Enfin, moi, je les écoutais, parce que bon, je suis à la prog aussi, ici. Et...
Oh là là ouais.
Non, mais c'était pour dire qu'ils ont fait une maquette qui ressemble pas vraiment à leur émission, mais on avait senti que dessous, il y en avait sous le pied.
Voilà. Oh là là, c'est trop classe. Mignon, tout ça.
C'est Fabien qui nous a promu.
Mais, ah non, je remercie plutôt Pascal.
Et j'ai une question, moi, c'est... Vous avez approché d'autres radios mis à part Canu, ou vous êtes venu sur Canu? Enfin, c'est pas un tribunal, non. C'est
à
juste
part
que
la
je
web radio
en fait.
De l'ENS, pas du tout. Enfin, je pense pas, non.
Brume quand même.
Ouais, j'avais regardé
Brume, mais j'en avais parlé avec d'autres gens aussi. Ils sont quasiment incontactables en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des gens là-bas, mais
c'est un peu la brume.
Voilà. C'est ça. C'est totalement.
Très, très bien son nom.
C'est-à-dire, ils ne répondent pas aux mails. Il faut tomber au bon moment au téléphone. Donc je pense qu'il faut y aller, mais en plus c'est loin. Donc ouais, peut-être que ça marche par contact. Je sais pas trop. Mais bon voilà, c'est sans aucune méchanceté hein, vis-à-vis non, d'eux, mais c'est non. Vrai que c'était les deux seules radios que j'avais contactées à l'époque, parce que je me disais que Brume étant une radio étudiante, peut-être qu'on aurait pu y faire quelque chose. Quoi.
Mais enfin c'est bien, ça montre que pour rentrer à Canu, bah, il faut avoir envie, faire une petite maquette, et puis après, ben bah, voilà.
Et tu pousses juste la porte.
Tu pousses la porte et c'est ouvert quoi.
Tous les mardis de 19 à 20h.
C'est ça.
Et moi, l'autre question que j'avais, que j'ai presque perdu, mais qui revient, hein. La question, c'était à la rigueur, peut-être expliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices qui vous connaissent pas forcément, en fait, un peu le principe de l'émission, même si je l'ai un peu grillé avant, mais enfin, rapidement, un peu comment, à quoi ça consiste.
Je te laisse peut-être.
Ouais, on essaie d'avoir une grille fixe de programmation au sein de l'émission, une structure, en fait, ce qui fait qu'on passe une nouveauté ou deux en début d'émission. Plutôt dans un registre, pas de la musique super commerciale et pas trop connue, mais dans des genres, on n'a pas de frontières de genre en fait, on veut passer le plus de genres musicaux possible, mais juste éviter de passer ce qu'on va entendre facilement ailleurs. Et après on choisit un thème en fonction de l'actualité ou en fonction de notre humeur ou de notre flemme des fois, et on essaie de trouver des chansons qui nous plaisent dans des genres variés autour de ce thème là et ce qui marche bien c'est qu'on a plutôt des goûts musicaux assez éloignés, donc ça se complète assez bien et ça fait quelque chose de très hétéroclite, et moi j'aime bien ça, donc voilà.
Et puis on se marche pas trop sur les pieds quoi, jusqu'à maintenant, à part une fois où je sais plus c'était quel groupe où on avait tous les deux la même
idée.
Pour l'émission
bretonne là, on avait tous dû à l'Institut,
voilà. C'est la seule fois au cours de toutes les émissions où on a eu la même idée de groupe.
Et puis quand on a le temps et qu'on déborde pas, on arrive à passer un truc local, mais c'est pas systématique. Voilà, on essaie de le faire.
Mais j'essaye de plus en plus de réhabiliter la chose.
Mais après, c'est peut-être aussi l'occasion de dire aux gens, si vous avez du son à faire écouter, que vous êtes dans la production locale.
Si vous êtes un groupe lyonnais, Saint-Etienne,
Stéphanois,
ou du département, tout ça, n'hésitez pas. Et vous avez envie de vous faire entendre.
Et il y a juste après nous, d'ailleurs, l'émission musique, etc., qui fait vraiment
il fait tourner
que du local.
Du coup, on s'est déjà retrouvé dans la situation d'avoir passé à un groupe qui l'invitait la semaine d'après ou des trucs comme ça.
Je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça vachement cool. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre?
On se dit qu'on va écouter un titre qu'on pourrait entendre dans le Petit Bazar. Ça vous va comme ça?
Vas-y.
Ils vont le présenter après. Tout.
Avec plaisir.
Mother, arrabal. Silence, silence, calle hospital. Silence, 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 arrabal. Silence, silence, en la ciudad.
Et voilà.
Et voilà, vous êtes toujours dans la causerie avec en spécial invité, nous, le petit bazar. Et donc c'était la chanson Silence Raval de Chesudaka. Donc Chesudaka, si vous avez écouté l'émission à 13h, je les ai aussi passés tout à l'heure dans le thème de l'expression, donc maintenant je les passe dans le mutisme, donc ça fait un petit lien avec l'émission de tout à l'heure.
C'est formidable.
Et donc Chesudaka, pour faire un rappel pour ceux qui n'auraient éventuellement pas écouté l'émission, honte à eux.
C'est ça.
C'est un groupe donc de gens qui viennent d'Amérique latine en grande partie, qui ont émigré à Barcelone et qui ont commencé à faire de la musique dans la rue à Barcelone. Et qui ont été entre autres promus par Manu Chao, qui les a aidés à être connus, enfin qui les a aidés à faire leur premier CD, qu'il faisait plusieurs fois la première partie de ses concerts, et donc ils ont gagné un peu de notoriété grâce à ça. Et cette chanson, donc Silence Raval, est un peu sur l'idée, donc une critique un peu d'un phénomène qui se passe à Barcelone depuis quelques années. Parce que Chesudaka, justement, comme je le disais, c'était des gens qui sont arrivés en immigrant et ils ont commencé à jouer dans les rues et ils ont commencé à gagner leur pain comme ça, quoi. C'est leur premier concert, leur début, c'était jouer dans la rue comme ça, et puis tout le monde se réunissait autour d'eux, comme à Lyon, ça peut être le cas entre Bellecour et Hôtel de Ville de temps en temps quand il y a des fanfares ou des groupes qui jouent. Et peu à peu, ils se faisaient un peu des sous comme ça dans la rue, jusqu'à ce qu'ils commencent à gagner de la notoriété en faisant des plus gros concerts et en ayant un album, etc. Et donc, il y a un peu une critique sur le fait que, depuis quelques années, à Barcelone, mais c'est valable un peu partout, il y a une grosse répression policière vis-à-vis des groupes qui font de la musique. C'est-à-dire que j'ai vu même, en lisant un peu sur Internet, des groupes qui disaient, qui racontaient comment des flics venaient et leur cassaient leurs instruments, les foutaient en garde à vue pendant plusieurs heures et tout, juste parce qu'ils étaient dans la rue et qu'ils faisaient de la musique, quoi. Ce qui est considéré comme du bruit et du dérangement vis-à-vis des voisins. Donc c'est un peu, enfin moi ça me choque assez quoi, que des gens qui viennent et qui mettent une bonne ambiance et une bonne humeur dans la rue, bon si c'est pas à 3h du mat quoi.
Oui mais il faut de l'ordre, de la sécurité, du silence, les gens veulent du silence en fait, ils veulent vivre tout seuls dans leur monde en fait.
Ouais je crois. Bah, c'est ça. C'est ça, ça qui fait un peu vivre dans sa petite cage, isolé, sans bruit, confiné, enfin...
C'est ça, quelque chose de... Comment on peut appeler ça ? Stérile, complètement stérile, toi, où il n'y a aucune interaction. C'est terrible, mais après, en même temps, enfin, en Espagne, c'est en Espagne, dans la police, il y a encore beaucoup d'anciens franquistes, hein, etc. Enfin, pour moi, ça répond aussi à des visions politiques d'une société, quoi. C'est-à-dire qu'on veut une société qui marche pas, qui ferme un peu sa gueule et qui fait quand même pas trop la fête. Parce que bon, il y a des valeurs bien plus importantes, enfin. Non, je plaisante. Bref, non, mais je voulais pas te couper.
Non, mais aucun souci, moi, c'était ma petite gueulante par rapport à ça.
Ok. Et ben, on fait quoi ?
Bah, je sais pas, on fait quoi, ce que tu veux.
Bah, on fait quoi ?
C'est toi le chef, hein, ce soir.
M'arrêter.
Non, bah, non, mais écoute... faire une petite parenthèse sur le fait que Barcelone, c'est une ville assez particulière en Espagne et qui garde encore un côté de rébellion assez marqué. Et c'est vrai que le gouvernement espagnol, depuis quelques années, cherche un peu à tuer toutes les initiatives de rue à Barcelone. Moi, j'avais parlé, quand on avait fait l'émission autour de la déambulation dans les rues, on avait des déambulations en espace public avec Emma où on vous parlait des différentes initiatives qu'on peut avoir. À Barcelone, ils ont quand même fait un énorme mur blanc juste parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait des fresques. Alors c'est pas que du tag, hein, c'est des fresques complètes qui étaient là parce qu'elles racontaient en fait la vie des gens de Barcelone et que ça dérangeait finalement les autorités qu'on parle du fait que Barcelone c'est une des villes où la répression policière est la plus forte, c'est une des villes où on a gentrifié totalement le centre-ville pour les touristes et qu'on a viré les gens les plus pauvres qui habitaient là. Enfin, voilà, c'est des réalités barcelonaises qu'on refuse de voir. Dans cette ville, il y a une très forte envie justement de sortir du mutisme et de se réapproprier les rues, les espaces et tout ça pour un petit peu se faire entendre. Et c'est quand même une tradition barcelonaise quand on regarde l'histoire d'Espagne. Barcelone, c'était quand même le cœur de la révolution espagnole de 36. Et c'est pas une surprise qu'aujourd'hui ça continue un petit peu, quoi. Voire beaucoup.
Bon, on fait quoi, mes petits chéris ? On s'écoute une chanson ou
on se fait une partie de cartes ?
Comme les sages.
Je sais pas, et d'un coup il y a plus de bruit, plus rien. Bon, allez, la maison de retraite, là, un petit peu de musique ?
Allez, vas-y. Bah, c'est pas
c'est pas le plus joyeux.
Allez-y.
Sans le Calvin Klein, il me rappelle encore ses souvenirs lointains. Depuis ma femme est morte et je peux me saouler au vin de l'assassin. J'ai tué ma bien-aimée, implanté deux couteaux n'aurait pas suffi. Il m'a fallu voir grand pour lui ôter la vie. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas, mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas. Thank you. cauchemar. Je ne regrette pas mon acte, je regrette mon état. Je pensais m'en remettre, mais en fait je ne peux pas. Un meurtre sur la conscience, ça ne s'oublie pas comme ça. Alors je tourne en rond avec mon brave Victor. On a pété les plombs, on tue les chiens dehors. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas. Mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas.
Vous êtes toujours dans la causerie sur Radio Canu et on vient de s'écouter Mansfield Tia avec le titre Pour oublier, je dors, qui est un peu glauque comme chanson, mais je trouve que c'est un travail d'écriture assez, assez intéressant. Mais après, je peux bien entendre que ça ne plaise pas à tout le monde.
Et on a le droit de dire qu'elles vont bientôt sortir un autre album.
Non, dis-moi pas que c'est pas vrai.
Je dis que c'est vrai.
Trop bien. Voilà. Eh ben pardon, oui, moi ça me fait envie. C'est Fab qui prend la suite, je crois que tu vas nous parler de... Alors, vu qu'on est sur la thématique du mutisme, sur comment on peut sortir du mutisme.
Ouais, c'est pas... parce que le but, c'est pas de faire une émission d'une heure sur le silence. Ça aurait été un peu chiant quand même. Donc, quoi qu'il y a des trucs un peu arty, tu sais, où on te fait une heure de silence pour te montrer que c'est de là, mais on fait pas ça à la cause.
John Cage.
Bah voilà. Mais en fait, l'idée, c'était de dire comment on peut sortir du mutisme, justement, comment quand on est enfermé, qu'on n'arrive pas à parler. Et je trouve que voilà, justement, bah l'art, c'est un des outils les plus utilisés finalement dans l'histoire humaine et notamment en ce moment pour sortir de du fait de pas pouvoir pas arriver à exprimer quelque chose. Alors les gens vont l'exprimer autrement. Alors ça va se faire dans la peinture, ça va se faire dans la musique, ça va se faire dans le cinéma, ça va se faire dans plein de types de d'art différents, mais les gens ne parlent pas directement d'eux. C'est-à-dire c'est toujours les sujets qu'ils ont vécu qui vont alimenter l'œuvre en question. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a un article assez intéressant qui est sorti d'une artiste qui est classée art contemporain et qui dit que le défaut de l'art contemporain, c'est de confondre la qualité émotionnelle avec la quantité, la qualification qu'on peut y mettre. Voilà. Et elle dit qu'à un moment donné, dans l'art contemporain, aujourd'hui, malheureusement, on ne laisse plus d'espace pour les artistes qui y mettent de l'émotionnel pur et pas qui cherchent à mettre autre chose que... voilà.
Tu veux dire qu'on est... Pardon. Tu veux dire qu'on est un peu content pour...
Non. Tout ça pour dire qu'on est un peu content pour rien. Mais bravo, Jean-Luc.
Ouais, j'ai fait une blague nulle. Je suis trop content.
Oui, mais par contre, on ne crie pas dans le micro.
Pardon, excusez-moi, amis auditeurs et auditrices, je suis désolé.
Ben voilà, donc, mais tout ça pour dire que il y a aujourd'hui une remise en question de l'art en général et du cinéma aussi. Enfin, il y a tout un courant qui est en train de se mettre en place qui dit que l'art pour l'art, ça allait un moment, mais que par moment, l'émotion, c'est aussi important parce que l'art a servi à toute époque à sortir justement le mutisme. Voilà. Et je vais vous renvoyer à un article assez intéressant que vous trouverez, non pas dans Newsweek, j'allais dire que j'ai une connerie, pardon, dans National Geographic. Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas grave.
Dans la salle géographique, et vous pouvez trouver ça sur leur site internet, et je sais pas si, voilà, qui parlait en fait du fait que pour beaucoup de psychologues et de psychiatres, pendant des années, les gens disaient que la Joconde de Léonard de Vinci, c'était la mère qu'il avait jamais eue, blablabla, enfin, il y avait une espèce de truc très freudien là-dessus. Et en fait, il y a un historien qui a fait des recherches, hein, de qui pouvait être cette Mona Lisa, il a retrouvé qui pouvait être Mona Lisa. Et en fait, il s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ça, c'était juste que, en fait, la Joconde, c'était, pour lui, c'était quelqu'un que Léonard de Vinci trouvait sympatoche, mais surtout, c'était un moyen pour lui d'exprimer son amour des sciences, parce qu'en fait, la Joconde, c'est un truc qui est hyper scientifique, c'est-à-dire, ses yeux vous suivent quand vous marchez, vous savez, c'est un truc qui est, en fait, une sorte de jeu de miroir permanent, et qui n'avait pas forcément de dimension psychologique derrière, comme on essaye d'en coller depuis des années. Et par contre, il dit c'est drôle parce qu'en se focalisant sur la Joconde, eh ben, on est passé à côté de, du reste de l'œuvre de Léonard de Vinci, où là, il exprime vraiment ses émotions et des choses qui étaient très ancrées en lui, et notamment son homosexualité, et qu'il le met par des traces très visibles dans ses œuvres et des fresques très visibles où on comprend très vite qu'il exprime ce qu'il est au fond de lui. Mais comme il n'avait pas trop le droit de le faire à l'époque, il le faisait de façon détournée. Et il dit justement, c'est que encore une fois, on a cherché l'œuvre qui avait de la valeur, c'est-à-dire la Joconde, qui est celle qui est estimée le plus chère dans l'œuvre de Léonard de Vinci, mais on n'est pas allé chercher l'œuvre dans son ensemble. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, pour sortir du mutisme, il y a des tas de gens qui se servent de l'art et qu'on méprise parce qu'on dit, bah oui, mais c'est pas dans les canons artistiques actuels, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ceci. Eh ben, je crois qu'on passe à côté de gens, parfois merveilleux, parce qu'on refuse justement de voir que, ben, même si c'est pas dans le canon du cinéma actuel, dans le canon de l'art actuel, de la peinture actuelle, ou ce que vous voulez, ils expriment une part d'eux-mêmes et que de passer à côté des gens, je trouve ça triste. Voilà.
Et ben, que dire après ça ?
Tout ce que je voulais dire, moi. Allez, à vous maintenant, hein. Moi je rentre.
Non, là, on est sous le coup de l'émotion.
C'est vrai. Non, bah ouais, enfin, moi après, je te rejoins sur effectivement sur le côté des fois stérile en fait de l'art. C'est-à-dire que, enfin, moi,
du marché de l'art, hein. Je fais bien marché de l'art, ouais. Art et marché de l'art.
Oui, effectivement, c'est ça le truc. C'est qu'au final, on aime les choses, un chien, un caniche géant à 25 millions signé Kunst, et à côté de ça, quelque chose qui peut encore plus transpirer les sentiments et tout ça, au final, ça passera à côté, quoi.
Bah, on voit ça avec les performances, notamment, et les gens qui font des performances sur scène, qui expriment beaucoup d'eux-mêmes, finalement, dans ces performances-là, en général. Enfin, même si ça peut paraître très extrême, il y en a qui vont très très loin dans la performance et qu'on peut se dire, mais pourquoi ils font ça? Et en fait, quand on prend un peu de recul, on se dit, bah voilà, parce qu'il y a des fois des blessures, parce qu'il y a des envies, parce qu'il y a des coups de gueule à passer, et qu'on n'arrive pas à les passer en le disant. Alors, on le dit d'une autre façon, quoi. Voilà, et je trouve que tous ces trucs-là qui sont méprisés petit à petit, qu'on dit non, c'est pas vraiment de l'art, ça c'est de la provoque. Alors j'adore quand on dit c'est de la provoque, comme si l'art ne devait pas provoquer. Ça serait magnifique. Mais voilà, donc je trouve que c'est cette espèce de truc de passer à côté des gens, moi, qui me dérange de plus en plus. Et voilà, et j'invite les gens à faire un petit peu des tours sur la Croix-Rousse, notamment sur la Guillotière, où il y a des gens qui font des trucs super dans des tout petits lieux, et il faut aller les voir, quoi. Des petites compagnies de théâtre, des petits artistes, et voilà, faut aller les voir, tout simplement.
Ben, vous dites quoi à ça? Vous êtes hyper silencieux, les gars, quand même.
Ah, mais on n'ose pas.
C'est vrai, vous n'osez pas.
Enfin, moi, c'est vrai que ça me fait penser que pendant tout ce, l'événement Tous à la Guy qui avait lieu en juin dernier, du coup, moi, j'étais bénévole au 6e continent, donc j'avais été un peu permé en quelque sorte dans une galerie. Donc, c'était la galerie La Rage à Guillotière. Et dedans, il y avait une expo, pour rebondir sur ce que tu disais. Donc moi, l'expo en soi, j'avouerais que artistiquement, m'avait pas nécessairement ému au premier abord. Mais par contre, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'ensuite, on m'a expliqué que c'était l'expo d'une femme qui venait du Vinatier, donc qui était considérée comme folle. Et du coup, elle avait fait tout un tas de dessins qui étaient exposés dans cette galerie. Donc dans cette idée-là, vraiment de l'art, comme tu dis, pour sortir du mutisme, je trouvais ça super intéressant comme démarche, en fait, même si moi, personnellement, son art m'avait pas nécessairement touché en tant qu'art, mais plus la démarche, tu vois, que je trouvais vraiment intéressante de dire, bah, elle a fait ça et elle exprime vraiment son émotion et tous ses sentiments qu'elle... Bah, peut-être qu'elle peut pas vraiment en parler avec les psychiatres qui la suivent, peut-être que elle arrive pas à exprimer la chose avec ses proches ou avec les gens avec qui elle est tous les jours, mais par contre l'art lui a donné potentiellement une manière d'extérioriser tout ça et d'exprimer un peu ce qu'elle ressent par rapport à ça, quoi. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant.
Et là, sans préparation aucune, et je vous jure que c'est vrai, amis auditrices et auditeurs, et ça rejoint ce que tu voulais nous dire par rapport à la radio des fous que tu parlais ce matin, qui avait un côté très intéressant, justement, d'être aussi un moyen d'aller vers l'extérieur.
Ouais, bah c'est, je pensais justement aussi à ça, c'est-à-dire que, bah, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une démarche qui a commencé à Buenos Aires, donc avec un hospice de fous qui s'appelle donc la Borda, je crois que ça s'appelle. Ils ont créé, donc à la base, c'est un étudiant en psychiatrie, je crois. Enfin, quelqu'un d'assez jeune qui les a poussés à faire ça, donc de créer une petite radio qui émettait vraiment localement sur 300-400 mètres carrés, quoi. Et il leur a dit bon bah voilà, on va faire une émission, et ils ont commencé à faire quelque chose tous les samedis. Et donc il y a eu apparemment un questionnement des institutions de est-ce qu'on va encadrer ça ou pas. Ce que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire les types qui travaillaient, les médecins quoi, se sont dit est-ce qu'on encadre ça et on prend les choses en main en quelque sorte pour que ça leur serve de thérapie, ou est-ce qu'on leur laisse libre cours. Et heureusement, ils leur ont laissé faire la chose comme eux ils entendaient. Et donc tous les samedis, ces types-là, bah, y allaient, se réunissaient et on fait vraiment ce que eux ils voulaient. Il y en a un, je lisais un peu, qui était fan de tango par exemple, et puis il passait des chansons de tango qui lui plaisaient. Et progressivement, c'est devenu vraiment très connu là-bas. Au point que, bon bah désolé, encore une fois je vais faire une référence à Manu Chao, mais Manu Chao est allé les voir, il leur a, les a aussi aidés à faire un CD pour justement promouvoir un peu ce qu'ils faisaient. Donc pareil, chez Sudaka, le groupe que je passais tout à l'heure, récupère souvent des samples et des bouts de voix de, des gens qui sont là-bas, quoi, pour les mettre dans leurs chansons. Et il y a vraiment un travail super intéressant là-dessus qui fait que même eux, apparemment, j'écoutais une émission... on a mis quelques liens sur le petit bazar sur le blog si vous voulez aller un peu plus loin. Il y a même des films, je crois, un film sur ce phénomène. Et donc il y a vraiment des choses super intéressantes parce que eux après ils font une sélection par exemple des, de certains moments de l'émission pour ensuite les revendre à d'autres radios pour réémettre. Et à partir de là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements comme ça qui ont commencé à germer un peu partout dans le monde. Il me semble qu'il y en a un à Paris, et vous me disiez même qu'ici, à Lyon, il y a même une émission.
Bah on peut, ouais, ça arrive. Alors, c'est pas des gens classés fous, comme on dit, c'est plutôt des gens que la société classerait dans les déficients mentaux. Ça veut dire tout et n'importe quoi, mais vous mettez ça, ce que vous voulez dedans. Effectivement, à Canut se monte un projet qui est très intéressant. On invite les auditeurs à zioter sur le site de Canut quand est-ce que ça passe, que c'est une fois par trimestre, où justement, il y a l'idée de laisser le micro ouvert et de faire des émissions avec des gens à qui, généralement, on dit pas non, ils ont pas, on n'a pas à les entendre, et on le laisse justement dans le mutisme, revenons à ce qu'on disait. Et là, en fait, c'est intéressant de voir que ben, on peut ouvrir aussi des portes par un média qui est la radio et qui permet ben, ouais, de laisser s'exprimer des gens qu'on, veut, qu'on refuse d'entendre. Il y a Radio Libertaire aussi qui a une émission comme ça, je crois, qui est tous les mois de mémoire. Donc voilà, et c'est, moi, c'est des initiatives que je trouve super intéressantes. Parce qu'entendre parler les gens qu'on déclasse, c'est super intéressant d'entendre leur voix et ce qu'ils ont à dire. Parce que même si ça peut paraître des fois très, très trivial, enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui disaient une fois, ouais, mais elle s'est plainte pendant 25 minutes de jamais avoir de dessert. Et c'est drôle parce que ça paraît comme ça très trivial, sauf que ça renvoie à quelque chose de terrible. C'est quand même qu'à un moment donné, on n'a pas de dessert et que ça devient quelque chose de central dans la vie de quelqu'un, parce qu'il y a que ça qui est le petit plaisir du jour, quoi. Et c'est, ça paraît bête, mais ça relativise vachement sur le rapport à la vie, sur des choses comme ça. Et voilà, je trouve que c'est intéressant comme démarche.
À partir du moment où tu essaies de décloisonner, de toute façon, je pense que c'est hyper intéressant, quoi.
Oui.
De sortir des lieux clos où chacun devrait se tenir bien éloigné de toute la société, hein, parce que quand même, ouais. Et qu'au final, c'est ça qui est super intéressant, quoi. Enfin, dans tous les sens que ça va, c'est que bon. Pourquoi tu rigoles?
Parce que je vais devoir passer un vinyle dans deux vidéos.
Oui. Alors ce soir,
soyons fous, passons un vinyle.
C'est ça. Grâce
non,
à.
Je l'ai pas beaucoup coupé.
Non, non, mais au final, moi, j'avais un peu terminé ce que je voulais dire. Après, si vous avez autre chose à rajouter, donc.
Moi, je me disais juste, ouais, c'est que par rapport à ce que je disais, en fait, c'est au final, ouais, le principe même de l'asile, c'est ça, c'est d'isoler ces gens-là pour qu'on les voit pas, pour qu'ils soient séparés du reste de la société. Et ce qui est super intéressant dans ces démarches-là, c'est ça, quoi, c'est de les mettre un peu au jour, des gens que, à la base, enfin, de base, écouter ça, des fois, on se dit que ça peut être un peu bizarre parce qu'ils ont pas du tout la même perception des choses, en fait. Et au final, il y a quand même des choses super intéressantes qui germent.
C'est toute la pensée hygiéniste qui veut ça. En fait, ouais. Au Moyen-Âge, les fous avaient libre circulation dans la rue et c'était juste un autre mode de pensée et de vision des choses et ils étaient tout à fait tolérés. Et c'est en arrivant à la Renaissance que, et Foucault en a beaucoup parlé dans ses écrits, qu'on a commencé à enfermer les marginaux dans des prisons, dans des asiles, dans des hôpitaux et qu'ils ont commencé à canaliser, en fait, ceux qui avaient le droit de parler, ceux qui avaient pas le droit de parler. Et maintenant, on assiste à une époque où de plus en plus de gens se posent la question de faire parler ceux qui n'ont pas le droit de parler. Il y a des choses intéressantes à faire là-dessus.
Moi, je voudrais juste ajouter un petit truc parce que je l'ai vu il y a pas longtemps ce film et il est vraiment génial sur le sujet. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman de 75. Il est, enfin, j'étais vraiment ébahi quoi. Après, j'allais dire sur le cul quoi. Enfin, vraiment, j'ai vu le film et ça se passe justement dans un asile de fous et puis on voit plein de personnages et qui vraiment peuvent être considérés comme tels quoi. Enfin, ce qu'on a l'habitude de voir comme tels et pourtant on s'attache à eux, on les voit. Avec leur mode de pensée spécifique chacun et on s'attache à eux quand on se dit
mais on est toujours le fou de quelqu'un, il faut jamais l'oublier quoi.
Je crois. Bon bah allez, tu balances ton vinyle.
Attendez, je ne coupe pas les micros tout de suite, si la musique démarre, je les coupe.
OK. Oh, c'est magnifique, on entend.
C'est beau. On agit, c'est parti.
Service? They're not hungry? No.
Eh ben, vous êtes toujours dans la causerie avec le petit bazar et on vient de s'écouter Shut Up de Savages, un groupe de punk féministe anglais, enfin franco-anglais en fait, parce que la jeune demoiselle que vous venez d'entendre s'égosiller pendant 4 minutes s'appelle Jenny Beth, mais son vrai nom c'est Camille Berthomier.
C'est mieux Jenny Beth.
Voilà. Ah oui. Et en fait, moi je savais pas du tout qu'elle était anglais, française ni francophone, c'est juste qu'on était en concert, on écoutait, on tripait grave, et puis d'un seul coup elle commence à nous parler, genre dans un français impeccable, et on est tous restés cons en mode ah. Et j'ai fait une petite recherche, en fait c'est une actrice à la base, elle a même été nommée pour le César du meilleur espoir féminin en 2005, et depuis voilà, elle a monté son petit groupe en mode look martial, tout en noir, quatre filles qui jouent de la guitare, de la basse, de la batterie, et qui font du bon gros punk comme on l'aime. Le disque est juste énorme, il s'appelle Silence Yourself et c'est sorti en 2013. Et donc bon bah Shut Up, mutisme, ça me paraît un peu obvious. Pas la peine d'en dire plus.
Alors sur trois mots, t'en dis deux en anglais.
Waouh.
Moi j'ai pas tout compris. Ouais, je vais être con.
Mais ouais, en plus, enfin, le morceau s'appelle Shut Up Tais-toi et l'album s'appelle Silence Yourself, et c'est peut-être plus intéressant parce que Silence Yourself c'est l'idée du mutisme qu'on s'implique, qu'on s'impose à soi-même, et comme c'est un disque qui fait référence à pas mal de corpus féministes, en fait c'est sur le silence qu'on imposait aux femmes en fait dans les sociétés un peu phallocentrées jusqu'à très récemment et même encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Mmh. Et donc c'est un appel à se sortir de ce modèle-là tout simplement, et voilà.
Et vu qu'on est sur le mutisme, toi t'as voulu aborder, nous parler, nous causer d'un film.
Donc on parlait d'asile et de marginaux qu'on met comme ça de côté et qu'on empêche de s'exprimer. Et il y en a en fait qui ne peuvent pas non plus s'exprimer à la base et qu'en plus on empêche de s'exprimer, donc c'est vraiment difficile. Donc c'est la communauté des sourds-muets. Et il y a un film ukrainien qui vient de sortir qui s'appelle The Tribe, la tribu, de Miroslav Slavoshpitsky. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, c'est un truc absolument imprononçable. Qui était à la semaine de la critique à Cannes l'an dernier, enfin cette année, et qui a eu le grand prix de la semaine de la critique. Et donc, c'est un film qui démarre sur un carton. Et le carton dit : ce film est en langage des signes, il ne comprend aucune traduction, aucun commentaire et aucun sous-titre. Et pendant 2h10, il n'y a pas un seul mot qui est prononcé, en fait. Et on suit un jeune homme qui rentre dans un centre, pas de réinsertion, un simple centre d'éducation, en fait, pour sourds-muets en Ukraine, et qui va découvrir ce milieu-là qui est gangréné, en fait, par une sorte de mafia de sourds-muets qui prostitue les filles, qui fait du recel et qui vend, en fait, dans les trains des colifichets. Et il y a toute une description de cette organisation de gangsters, en fait, il n'y a pas trop d'autres mots, en fait. Et complètement coupé du monde, en fait, c'est des adolescents, des jeunes adultes, et qui n'ont aucun point de contact avec les parlants et les entendants, j'ai envie de dire. Et on les voit au début vite fait aller en cours, et en fait, les rares profs qu'ils ont, c'est des complices. Hein, c'est celui qui conduit la fourgonnette qui va jusque là où les prostituées vont vendre leur corps. Enfin, c'est très très bizarre. Et du coup, au début, on est perdu dans le film parce qu'on essaie de comprendre ces personnages qui dialoguent devant nous, mais dialoguent avec les mains et avec le visage. Et quand on connaît pas la langue des signes, on comprend rien, en fait. Et au bout d'un quart d'heure, on oublie tout simplement, et on comprend ce qui se passe sans comprendre ce qu'ils se disent. C'est une nuance assez, en fait, ils se définissent par leurs actes et pas par leurs dialogues ou leurs paroles, leurs gestes. Et on se rend compte que tout ce qu'ils se disent entre eux est finalement assez accessoire, que ça doit être l'équivalent de nos conversations les plus banales, et que ce qui importe, en fait, c'est la violence des corps. Donc, corps érotique, hein, y a des viols, il y a beaucoup de choses particulièrement difficiles, il y a un avortement dans le film qui est insoutenable. Et au-delà de ce parti pris du cinéaste de pas du tout vouloir sous-titrer quoi que ce soit, c'est-à-dire de plonger le spectateur le plus près possible des conditions de vie et de perception des sourds-muets, il a un choix radical de mise en scène qui est le plan séquence, en fait. C'est-à-dire que son film comporte 23 plans. Pour un film de 2h10, c'est rien. C'est-à-dire que le plan de la séquence de l'avortement dure 11 minutes. Et en fait, c'est que des plans comme ça, interminables, où la caméra suit les personnages de plus ou moins loin. Et à chaque scène du film, il se passe un plan, une action, un truc, une unité en fait de narration très précise. Et c'est assez diabolique en fait. Le début du film, c'est l'arrivée du jeune dans le centre. Il y a un plan fixe incroyable derrière une vitre où on observe la rentrée en fait de l'institut avec tout le monde qui s'applaudit et à le milieu qui a l'air assez joyeux alors qu'en fait c'est juste une apparence, une surface. Et puis comme ça, voilà, il y a les quelques fois où on les accompagne sur le lieu où ils vont prostituer les filles. Il y a des démarches pour naturaliser italienne en fait certaines des prostituées. En fait, l'histoire c'est que ce jeune va tomber amoureux d'une des prostituées et va vouloir empêcher qu'elle se prostitue.
Attention spoil.
Non, mais enfin c'est l'histoire du film, hein, c'est pas la fin ou quoi. Il va juste vouloir empêcher que les autres prostituent cette fille sans lui demander son avis entre guillemets. Et ça va pas très très bien se passer forcément. Et donc voilà, c'est assez difficile à regarder, assez douloureux quand même. Hein. Les réactions des gens dans la salle étaient. Il y a personne qui est sorti, j'étais très surpris parce que je m'attendais à ce que ça fasse fuir les gens. La salle était pleine, c'était incroyable. Et donc voilà, c'est un film entièrement en langage des signes et surtout la langue des signes. Moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas une langue universelle comme on pourrait le croire, mais il y a des dialectes en langage des signes et donc c'est un film en langage des signes ukrainien. C'est-à-dire qu'un Français qui parle la langue des signes comprendrait une partie des choses, mais pas tout. Parce que la grammaire est commune, mais tout n'est pas en commun. Et du coup, c'est diabolique au point que même un sourd-muet français pourrait être largué en fait, devant le film. C'est-à-dire c'est une expérience assez unique où pendant 2h10, vous voyez juste des gens bouger et vous avez juste ça à vous raccrocher. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et la critique qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que le film est sonore en fait. On les entend marcher, on les entend ouvrir, fermer les portes. Et ça joue beaucoup là-dessus en fait. Comme ils ne s'entendent pas, mais nous on les entend, il y a quand même un effet de distance qui est créé parce qu'on n'est pas vraiment dans la même situation qu'eux. On peut se rattacher à quelque chose, on peut entendre quelqu'un qui arrive. Il y a une scène au début du film où un personnage meurt parce qu'il y a une voiture qui recule derrière lui, il ne l'entend pas en fait. Donc il se retrouve écrasé sous la voiture. Et ça n'arriverait pas pour nous, puisqu'on aurait entendu la voiture, et lui, on se dit peut-être qu'il aurait pu sentir les vibrations du sol, je sais pas, mais visiblement non, et du coup, il faut se placer dans une sorte d'écart de perception, il faut faire un effort comme ça, et c'est assez impressionnant. Après, le film est très très noir, j'aurais peut-être préféré voir un film sur les sourds-muets qui montre aussi qu'il y a des gens heureux en étant sourds-muets et qu'ils peuvent s'exprimer. Et
enfin là, il a pris
un joyeux, mais il a pris vraiment un sujet le plus noir possible.
Un sujet qui est réel aussi.
Après, oui, c'est avéré, ça a existé. Il a dit qu'il n'avait pas fait ça parce qu'apparemment ses parents étaient sourds-muets ou quelque chose comme ça. Il s'est inspiré de faits qui étaient arrivés.
J'allais poser les questions, lui-même.
Lui, il n'est pas sourd-muet. Il n'est pas, mais il a vécu dans un milieu où il a fait un premier court-métrage qui s'appelait. Je crois surdité ou je sais plus, c'était un nom comme ça. Et du coup, il connaît ce milieu-là et il a dit je m'en suis inspiré en prenant des trucs qui étaient déjà arrivés, mais après c'est pas ma vie, c'est une fiction avec des trucs qui sont déjà arrivés et qui existent quoi. C'est-à-dire il y a vraiment dans l'ex-bloc soviétique en tout cas des réseaux de prostitution et de trucs comme ça dans le milieu des surmuets parce qu'en fait l'État s'en fout complètement.
Et les acteurs tu sais
c'est des non-professionnels entre 18 et 25 ans tous surmuets
d'accord.
Voilà. Et ça se voit dans le film hein.
Mais avant justement quand on parle pardon, quand on parlait d'exclusion etc les sourds les personnes qui pratiquaient la langue des signes en France ont été bannies de la société.
Ouais, ça date de. C'est très récent, là. Que ce soit
2005,
la recension. C'est ça, 2005.
Qui a été reconnue comme une langue, quoi. Enfin, tu te dis. Enfin. C'est quand même. Moi, ça m'interroge vachement, quand même, sur notre perception des gens qui ont une différence, mais enfin.
C'est une culture très européenne, en fait. Parce qu'aux États-Unis, c'est une langue qui a toujours été reconnue, qui n'a jamais été interdite. Et du coup, c'est la troisième langue en termes de gens qui la pratiquent aux États-Unis, derrière l'anglais et l'espagnol.
Ah ouais?
Ça, okay. C'est assez impressionnant aussi de se dire ça finalement. Parce que clairement, moi j'ai regretté de jamais avoir appris ça en voyant le film. Je me suis dit, j'aurais eu les bases, j'aurais pu comprendre 2-3 scènes. J'arrivais juste à comprendre quand ils disaient tu veux fumer ou tu veux pas fumer, parce qu'ils avaient une clope à la main quoi. Enfin, le reste du film, il y a vraiment, j'ai dû comprendre 1% des dialogues du film. Pourtant, j'ai compris l'histoire, ça c'est assez clair, mais il y a plein de subtilités qui échappent et le cinéaste revendique ça en fait. Il ne veut pas que les gens, même en Ukraine, le film sort sans aucune explication. Okay. Et pour s'il y a un DVD un jour, pareil, c'est.
Pas moralité.
Il revendique cette opacité.
Courrez le voir.
Oui, moi vous allez en déguster, mais c'est à voir. C'est vraiment une expérience assez inouïe.
Bon. Eh ben cool.
Alors là, on n'a pas de musique à mettre parce que de toute façon, d'abord, on est à la bourre et puis en plus, de toute façon, si on met de la musique, on va être encore plus à la bourre. Donc on va enchaîner en glissant sur un tout autre sujet. Ouais. Mais qui sera une introduction à une future. Désolé, on se fait un petit peu un teaser causerie là, hein, pardon. Mais une future émission oui. qu'on va essayer de monter avec bah, l'auteur du livre que tu vas présenter.
Effectivement. En fait, la semaine dernière, si vous avez suivi la causerie, dans les brèves, on vous donnait un rendez-vous qui s'est passé à la librairie La Griffe sur Lyon, en fait, et c'était la présentation en fait du livre Ni silence ni pardon, l'inceste, un viol institué, de Jeanne Cordelier et Mélusine Vertelune, avec une préface de Marie-France Casalis aux éditions M Édition en fait. Donc voilà, et en fait le truc c'est que j'avais pas du tout prévu d'en parler, et puis au final on a préparé ces émissions, on a parlé de mutisme, et ce livre est justement une des... Ça rejoint ce que tu disais aussi, Fab, sur les moyens de sortir du mutisme. Enfin, je trouve que c'est un condensé de plein de toutes ces choses-là. Et donc, c'est effectivement, bah, c'est passé par l'écrit pour dénoncer les violences qu'on nous a infligées. Et là, c'est le cas de Mélusine Vertelune qui nous raconte sa vie, en fait, dont son frère a commis des viols sur elle, quoi. Donc avec un certain silence de la mère qui en disait certainement bien plus sur sa connivence avec tout ça. Enfin, c'est vraiment un sujet hyper intéressant, enfin triste certainement, mais c'est la réalité aussi, ça existe, et que tant qu'on n'y fait pas face, on n'avancera jamais sur ce sujet-là.
Pour reprendre quelque chose qui a été dit dans la conférence et que j'ai trouvé très intéressant, dans les années 50, les enfants de divorcés étaient des gens qu'on mettait au ban de la société, et plus on a parlé des enfants de divorcés et du divorce, plus ça a été accepté. Et aujourd'hui, en fait, c'est des gens qui ont subi l'inceste, qu'en général on veut pas entendre et on les met sur le côté. Et bah, plus on en parlera dans l'espace public, et plus on comprendra que le problème c'est pas les gens qui ont subi l'inceste, c'est ceux qui l'ont fait subir. Voilà.
Et donc voilà, enfin, c'est, je vais pas non plus en parler 3 heures, parce que l'idée c'est aussi qu'une fois on puisse effectivement, j'espère, recevoir l'auteur, et parce que c'est encore une fois c'est un sujet tabou dans notre société, tabou même dans les milieux libertaires anarchistes, et c'est aussi une de ses volontés à elle, c'est de jeter à un moment donné un gros pavé, de dire voilà la réalité aussi, et dans laquelle on tout le monde un peu essaie de dire bah, ouais, enfin moi ça me regarde pas, ou et ça c'est hyper intéressant, quoi, et que justement, enfin ça demande aussi à interroger beaucoup de choses, la famille, la construction des identités masculines, des identités de tout ça,
le patriarcat,
enfin vraiment, enfin c'est je sais pas comment vous dire, courez acheter ce livre. Parce que ça fera déjà connaître beaucoup cette chose-là. Je rappelle les coordonnées, c'est Ni silence ni pardon, l'inceste d'un viol institué. Et c'est à M Édition, et c'est, je crois, 12 €, vous le trouvez à la librairie La Griffe et ailleurs encore. Et puis voilà.
Ouais.
Est-ce que j'étais assez...
C'était concis, clair, et on a tous envie d'avoir une causerie là-dessus. Okay. Enfin, surtout les gens de la causerie, je pense. Je sais pas pour les autres, mais nous, oui.
Bon, alors,
je refais comme ce matin, alors.
Ah ouais, mais alors là, c'est vraiment l'accumulation de plein de sujets qu'on passe.
Alors, finit un petit peu. Là, on y va doucement. Et comme ça te permettra de préparer tes 2 brèves que tu dois donner après.
Ouais.
Et donc, du coup, je vous rappelle que Radio Canu est une radio associative à tendance légèrement libertaire, comme diraient certains, mais qui en plus laisse la porte, comme on le disait, ouverte à beaucoup de gens. Parce que tout le monde peut venir faire de la radio à Radio Canu. Enfin, peut tenter, poser une maquette pour essayer de faire de la radio à Canu. Et mais le souci, c'est que Canu a des difficultés aujourd'hui financières et qu'on a besoin de sous, donc on a lancé un appel aux dons. Et l'appel aux dons, c'est des chèques que vous pouvez envoyer à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201, Lyon CEDEX 01. Et cet argent-là, oui, ce que j'ai pas dit qu'on allait en faire. Comme j'ai dit à 13h, on n'en fait pas un jacuzzi ni des voyages, ni quoi que ce soit, c'est bien dommage. Et on ne transformera pas Radio Canu en annexe d'un sauna, non, c'est dommage. Mais par contre,
local, si on a assez de sous, on pourrait prendre un sauna.
Voilà, exactement. C'est que si on a assez de fric, on pourra prendre un local. En fait, l'idée, c'est d'acheter un local, de plus être sous la pression, en fait, de l'augmentation des loyers, notamment dans la région lyonnaise. On voit que ça monte très très vite pour les locaux. Et le nôtre a pris 20% à la dernière augmentation de loyer. C'est pour 2 ans cette renégociation. On ne sait pas ce que ce sera dans un an maintenant. Donc du coup, voilà, on appelle à votre générosité pour pouvoir nous loger plus fixement et définitivement, pour pouvoir rester dans les 40 prochaines années sans trop de problèmes.
C'est ça, continuer de rester un média Indépendant et alternatif.
Et sans pub.
Et sans pub, effectivement. Tout en étant indépendant. On est balèze quand même, hein, je trouve, comparé à d'autres. Enfin bon, bref. Pour rester sur cette thématique quand même, deux petits rendez-vous dans les brèves. C'est le 30 octobre, en fait. Il y a une soirée autour de Canu, de l'appel à don, etc. Et donc, c'est au Cafeton. C'est 44 rue Burdeau. Ça sera le 30 octobre à partir de 19h si je ne me trompe pas. Mmh. Et puis bah, vous pouvez rencontrer normalement des animateurs, des animatrices, discuter, boire des coups,
nous toucher.
Bah toi t'as vraiment envie de toucher quoi. Bon bah vous pouvez toucher Fab qui se promènera avec un petit carton tout chez moi. Voilà. S'il y a personne, tu te démerdes. Hein.
Mais non mais c'est pas obligé de me toucher. Mais...
Ok. Et bon, on va se reprendre.
Encore ? Non.
Donc le dernier rendez-vous, là on est encore un petit peu plus sérieux, lui il est bien plus proche, c'est samedi 18 octobre, de 16h à 23h, la MJC Mon Plaisir, en fait c'est le collectif du 21 octobre 2010 en fait, qui vous invite à une soirée pour faire le point avec son avocat autour du 21 octobre, effectivement, des violences policières.
C'était donc, la prison Bellecour pour ceux qui se rappellent.
Ouais, alors je peux faire un rappel rapide, hein, c'est le jeudi 21 octobre entre 13h30 et 19h30, plusieurs centaines de personnes, majoritairement des jeunes, voire des mineurs, répondant à l'appel à manifester contre la réforme des retraites, ont subi sur ordre de l'autorité préfectorale une garde à vue en plein air, place Bellecour. Totalement illégal. 700 manifestants se retrouvèrent ainsi retenus, réprimés, insultés, filmés, arrosés, gazés, puis contrôlés par des centaines de CRS et agents du GIPN, armés de flashballs, de tasers, de fusils à pompe, équipés de canons à eau aussi. Voilà. Donc ça, c'est bien la réalité aussi, hein, qui se passe ici en France. Hein. Et donc, c'était il y a quand même 4 ans. Donc l'idée, c'est quand même d'en faire un petit point dessus, de voir... Les suites qui peuvent être données à cette affaire, parce qu'effectivement quand on s'attaque à l'État, eh ben c'est pas facile. Et donc voilà, ben rendez-vous donc le 18 octobre de 16h à 23h la MJC Mon Plaisir, c'est au 25 avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement.
Il y a aussi l'intervention de
Alors il y a personnes. Mathieu Rigouste aussi, ouais. Qui sera là, qui est auteur de La domination policière, une violence industrielle, de Attisso Médessou, réalisateur de Les bandes, le quartier et moi, et Patrice Bouveret, cofondateur en 84 de l'Observatoire des armements. Voilà.
Et ben voilà. Et ben le petit bazar, c'était bien cette causerie.
Merci
alors.
D'être venu.
Ça vous a plu. Merci à vous d'être venu aussitôt à 13h.
Ouais, c'est dur.
Vous êtes pas réveillé.
Franchement, c'était pas facile. On recommence pas demain, quoi. Je veux dire, il va me falloir laisser quelques jours quand même de.
Mais
de
vous récup. Revenez quand vous voulez. Hein.
Mais pareil, vous savez, là où. Enfin, en plus, vous avez la clé, donc vous pouvez rentrer.
Voilà.
Et puis, petit rappel, vous pouvez retrouver les podcasts sur blog.radiocanu.org/le-petit-bazar ou /la-causerie, puisque les podcasts seront sur nos deux blogs.
Tout à fait.
C'est ça.
Et ben là, on va se quitter quand même, je vais dire, avec un titre qui est que c'est mon choix. Et que je pense que des trucs comme ça sur Canu, vous n'en entendrez pas souvent. Pas parce que c'est bien, mais au contraire, parce que c'est un peu de la daube. mais j'aime bien.
Mais de la daube assumée.
Et moi, j'assume total. Hein.
Et je voulais juste en profiter pour faire un bisou à Emma, quand
oui,
même.
Tout à fait. Ouais.
On pense à elle, on lui fait des bisous. Et puis, ben, merci à vous d'être venus. Merci à Clara aussi. Et puis, bah, bon courage à tout le monde. Bonne semaine.
Je vais peut-être donner le titre, quand même.
Ouais, donne le titre.
Alors, c'est Delirium Fit.
Fit.
Yeah, featuring. Sarah McLachlan, et ça s'appelle Silence. Et je vous laisse avec ça.
Et après nous, les yeux grands ouverts. Yes. Ciao.
Ciao.